Là, nous avons demandé à Jean-Michel Carrier de nous apporter son expérience, ses connaissances.
Merci Pablo. Comme je suis à la charnière du mouvement d'aller-retour chronologique et aussi du rythme à la séance, je vais donc, à la différence de mes prédécesseurs, je vais donc enchaîner les deux temps de parole. Si l'on définit le paysan comme un petit ou moyen propriétaire exploitant, cet archétype social a effectivement existé dans l'Antiquité, d'une façon même prédominante, numériquement, dans la Grèce archaïque et classique, ou en Italie, jusqu'à l'époque des guerres civiles du dernier siècle avant notre ère, moment où l'enrôlement en masse des paysans dans les armées rivales au service des candidats au pouvoir suprême a largement décimé, ou à tout le moins déraciné, la classe paysanne italienne. Ces guerres civiles ont eu pour conséquence de vastes spoliations de terres aux dépens des paysans dans certaines zones rurales afin de redistribuer ces mêmes terres au profit des soldats démobilisés conformément aux promesses qui leur avaient été faites. Ce vaste phénomène de transfert de propriété est un phénomène capital dans l'histoire agraire et sociale de Rome. Cette politique s'est marquée par la création de ce qu'on appelle des colonies militaires. Alors, colonies, attention, c'est un anachronisme, au sens de communauté de citoyens romains, d'abord implantée en territoire non romain. Dans cette mesure, c'est un peu aussi un phénomène colonial au sens général. Des communautés dotées initialement d'une forte cohésion humaine, centrée sur une ville créée ou refondée à cette occasion, une ville qui matérialise le rêve social du paysan antique, qui est de cultiver sa terre à partir d'une résidence de type citadin. Ces colons romains sont donc des intrus par rapport aux populations locales spoliées. Il s'est agi, dans le contexte des guerres civiles de la fin de la République, d'une procédure d'exception, procédure contemporaine de mesures de proscription et de mise à mort des anciens adversaires politiques, avec confiscation de leurs biens, qui s'est accompagnée de représailles à l'égard des cités qui n'avaient pas choisi le bon camp, celui des vainqueurs. Par exemple, après la mort de César, 18 cités italiennes ont été inscrites sur une liste noire pour permettre l'installation de 36 000 vétérans. Très souvent, ces anciens soldats n'exploitaient pas eux-mêmes leurs terres, mais utilisaient les anciens propriétaires spoliés comme métayers. Alors, cette fois, il ne s'agissait plus de terres conquises dans les provinces, comme pour les vétérans de Marius en 103, mais de terres arrachées à des Italiens devenus citoyens romains en 89. Toutefois, ce n'est pas cette phase d'expropriation dont je parlerai ici, plus en détail, mais d'une autre phase marquante à cet égard, une phase qui se situe à l'extrême opposé de la période impériale romaine, c'est-à-dire la période qui a occupé en Occident les cinq premiers siècles de l'ère chrétienne. Durant cette période, donc entre 4e et 5e siècle, de grandes transformations sociopolitiques sont intervenues. Politiquement, enfin, je veux dire, durant la période de l'Empire romain et avant d'arriver à la période finale, de grandes transformations sociopolitiques sont intervenues. Alors, politiquement, c'est l'extension de la citoyenneté romaine à toute la population libre du territoire impérial. Socialement, c'est la consécration sous l'égide du pouvoir impérial de la domination locale des élites citadines, c'est-à-dire dans chaque cité de l'Empire, la domination du groupe constitué par les principaux propriétaires fonciers. Propriétaires qui, bien entendu, n'exploitaient pas eux-mêmes leurs terres, cette tâche étant confiée à des paysans microfondières ou totalement dépourvus de terres. Ajoutons que le pouvoir impérial avait fait reconnaître son droit de confiscation des terres des particuliers lorsqu'ils étaient coupables d'un crime grave, par exemple la fraude fiscale ou le crime de lèse-majesté. Concept suffisamment extensible pour permettre tous les arbitraires du pouvoir. Bon, ce préambule, je pense, est très inutile pour rendre compréhensibles les deux phénomènes de transfert de propriété ou de spoliation qui ont marqué la fin de l'Empire romain en Occident, donc nous arrivons au 4e, 5e siècle. Il s'agit de deux phénomènes totalement distinct et obéissant à une dynamique spécifique. Le premier phénomène, c'est celui qu'on a appelé le patronage. C'est un phénomène interne à l'appareil sociopolitique légal de l'empereur de l'Empire romain. Sur ce patronage, je n'aurai pas le temps d'en parler ici. En deux mots, il s'agit de l'échange de la propriété de la terre contre la protection d'un puissant. Protection contre l'appareil fiscal de l'Empire. Donc, comme c'est quelque chose de contraire aux intérêts de l'État, c'est décrété illégal et donc réprimé par la loi. Mais je voudrais alors consacrer quelques minutes au second phénomène, celui de l'installation de populations barbares, populations germaniques, sur les territoires romain. Cette fois, il s'agit donc d'un phénomène au départ extérieur à la structure impériale, bien qu'il soit lui aussi en rapport étroit avec cette structure. Cette installation donc, des populations barbares sur le sol romain s'est faite dans le contexte de ce qu'on appelait autrefois.
Jean-Michel, une minute.
Oui,
une minute.
J'ai commencé à 16h01.
16h01.
Si j'ai 10 minutes, ça me fait aller jusqu'à 11.
Ah, il fait les détents.
Ah oui, d'accord.
Tu as oublié toi-même les règles du jeu.
Bon, parfait. Très bien, très bien.
Oui. Donc, dans le contexte de ce qu'on appelait autrefois les grandes invasions, et que les spécialistes de la période préfèrent aujourd'hui appeler les migrations de peuples, la Volkswanderung, ce changement de désignation n'étant pas seulement un exemple de diffusion du langage politiquement correct en histoire, c'est la conclusion à laquelle a conduit l'étude scientifique objective désidéologisée du phénomène. Les grandes invasions n'ont été ni grandes ni même des invasions. Cela dit, les dysfonctionnements de l'État impérial romain ont conduit celui-ci, faute de recrues romaines, à passer des traités avec les chefs barbares qui ne cherchent pas à détruire l'Empire romain, mais au contraire à s'imposer comme défenseurs de l'Empire romain en échange du droit de s'installer sur des terres romaines. L'agressivité même dont sont capables ces groupes barbares, par exemple les Goths, dans les années 377-382 dans les Balkans, ou en 405-410 en Italie, prise de Rome par l'Afrique, cette agressivité vise à obtenir par la force le droit de s'installer et de devenir romain, de s'imposer aux Romains comme leur défenseur contre les autres barbares. Et c'est ce qu'ils font, effectivement. C'est dans un deuxième temps seulement que des royaumes germaniques se sont substitués au défunt empire romain. Alors, les modalités d'installation des guerriers barbares et de leurs familles sur le sol romain présentent trois caractéristiques très singulières, à mon sens, dans une perspective même d'histoire universelle. D'une part, les expropriations ont frappé de grands propriétaires et épargné les paysans de petits propriétaires. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun intérêt à diviser une toute petite propriété. L'opération même aurait été irréalisable. D'autre part, l'opération d'expropriation s'est effectuée dans un cadre légal strictement défini. Et enfin, la distribution des terres a été réalisée par un grand service administratif spécifiquement créé à cet effet. Comment cela fonctionnait-il ? Naturellement, c'est presque toujours le cas en histoire ancienne, nous disposons d'aucune source qui nous explicite la façon dont on a procédé. Sinon, où serait le plaisir de l'historien? Nous devons assembler donc toute une série de textes et de documents, les recouper, chercher à voir comment ils aident à comprendre les uns par les autres. Tout aussi naturellement, un débat s'est ouvert qui a donné lieu à une énorme bibliographie contradictoire. Pour nous limiter au cas d'Ego en Italie, la solution a consisté à diviser les terres, ou plutôt, donc, comme je disais, certaines terres, en deux tiers qui restaient à l'ancien propriétaire, un tiers qui était attribué à un hôte, hospes, ou plusieurs hôtes, selon la superficie. Dès 476, date officielle de la fin de l'Empire d'Occident, Odoacre avait, semble-t-il, déjà adopté une solution de ce genre, mais c'est surtout l'opération de partage et de redistribution de Théodoric à partir de 493 à l'échelle d'une partie du territoire italien. C'est à ce sujet que nous sommes le mieux renseignés. Un haut fonctionnaire, pour simplifier, c'est un terme parfaitement anachronique, dénommé Liber, a supervisé une procédure d'assignation de tiers de propriété. Selon les termes du sénateur romain Cassiodore, il a divisé la terre tout en maintenant une communion entre l'ancien propriétaire et la partie attribuée à un autre. Toutefois, cela n'instaure pas un régime de copropriété, tout au plus une solidarité imposée. L'hospes a tous les droits de propriété, sauf celui de revendre sa part, donc il est propriétaire sans l'être totalement, et il a encore moins le droit d'usurper la part de l'ancien propriétaire. Si j'ai encore une minute.
Allons-y.
Merci. Donc, Cassiodore, déjà nommé, et l'écrivain Hénote, encore plus, lui, sur le ton du panégyrique, de l'éloge excessif, tous deux ont félicité le dénommé Liber d'avoir rendu cette opération massive, pourtant, quasiment indolore. Cette opération d'expropriation de la distribution, qui est quand même une véritable amputation. Même pas mal, aurait pu dire le propriétaire romain, partiellement dépossédé, selon les termes d'Hénote. Tu as enrichi les hordes d'Ego par une vaste attribution de terres, et les Romains s'en sont à peine aperçus. Un tel irénisme, une telle idéalisation de la situation a éveillé naturellement les soupçons des historiens qui ont donc souvent écarté ces témoignages. Et c'est dommage parce que, même en tenant compte des exagérations rhétoriques, ces textes nous apprennent beaucoup. Alors, à quoi a conduit cette méfiance des historiens? Elle a conduit à deux fausses bonnes idées. La première, c'est que le système se serait assuré d'une institution déjà ancienne en droit romain, celle de l'hospitium. Il s'agissait du droit pour l'État de réquisitionner un logement chez l'habitant pour des soldats en stationnement temporaire ou pour des bureaucrates en déplacement. Sauf que attribuer un tiers de la propriété d'une terre n'est quand même pas la même chose qu'accorder le droit d'usage temporaire sur un tiers de maison. Donc de cette première fausse de l'idée, retenons seulement un point. Le choix des mots hospes, hospitalitas, avait l'avantage de présenter cette expropriation comme quelque chose de déjà connu, quelque chose fondé déjà dans le droit préexistant. Et je terminerai sur la deuxième fausse bonne idée, apparue plus récemment, c'est qu'il était hors de question de spolier des propriétaires, qu'on aurait certainement, sinon, entendu dans nos sources, crier comme des cochons qu'on égorge, des pigeons qu'on égorge, pour reprendre un terme d'actualité. Il faut donc supposer que le pouvoir royal, Théodoric, n'a pas procédé à un transfert de propriété, mais a directement mis à la disposition des combattants barbares le revenu fiscal, un tiers du revenu annuel global de ces domaines fonciers. En quelque sorte, on aurait créé un circuit fiscal court du contribuable au soldat, sans passer par le circuit fiscal complexe. Malheureusement, cette interprétation ingénieuse est totalement contredite par le texte qui évoque constamment la réalité du transfert de terre. Tout au plus, il y a dit à conserver une idée, c'est la piste d'explication du côté de la fiscalité. Je n'ai pas le temps d'exposer.
Merci.